Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme, samaritaine, vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La samaritaine s'exclama. « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, éviter toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob ?» auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent, ainsi Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ? Ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Messie ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?»« Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Vous dites en ce moment, « Encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas ? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait !» Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'ils avaient faits. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum, vivait un haut fonctionnaire, dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. » Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, « Ton fils est bien portant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée.
Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour cette parole que tu nous adresses aujourd'hui. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous puissions la recevoir, pour que cette parole ait son effet en nous. C'est notre prière en Jésus. Amen. Merci de garder ce passage devant vous. Je suis très heureux de prêcher sur ce texte ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a 17 ans, j'ai entendu un monsieur qui prêchait sur ce même texte, Jean chapitre 4, et Dieu l'a utilisé pour ouvrir mes yeux et voir qui est Jésus. Et le fait qu'il voulait être mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est comme cela que je suis devenu chrétien. Et donc je prie que Dieu utilise ce passage pour continuer son œuvre dans nos cœurs, ici, aujourd'hui. Il y a 3 questions que je veux poser à ce passage. Qu'est-ce que Jésus propose? Comment pouvons-nous l'obtenir? Et qui peut l'obtenir? Première question. Qu'est-ce que Jésus propose? La réponse. La vie qui satisfait vraiment. La vie qui satisfait vraiment. Pour comprendre à quel point cette conversation avec entre Jésus et la femme est surprenante, insolite, nous avons besoin de connaître un peu l'arrière-plan des Juifs et des Samaritains. Les Samaritains, c'était les voisins des Juifs. Ils étaient au milieu du pays. Et donc, pour traverser entre Judée dans le sud et Galilée au nord, il fallait traverser la Samarie. Et parfois, les Juifs, pour éviter de traverser la Samarie, ils ont pris un gros détour. Parce que pour eux, les Samaritains, c'était des ennemis. C'était des gens impurs. C'était des gens avec qui il ne fallait pas se mélanger. Les Samaritains et les Juifs se détestaient. Ils étaient tous les deux descendants d'Abraham, ils adoraient Dieu tous les deux, mais ils n'étaient pas d'accord sur la manière d'adorer Dieu. En fait, les Samaritains n'ont gardé que les premiers 5 livres de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, et ils croyaient que le bon endroit pour louer Dieu, c'était sur le mont Garizim qui se trouvait en Samarie. Et les Juifs, ils avaient tout l'Ancien Testament, et selon les Écritures, c'est Jérusalem que Dieu a choisi pour la construction du temple. C'est là où il fallait aller pour lui rendre un culte, pour l'adorer. Donc au niveau de la religion, ils n'étaient pas d'accord. Et socialement, ils ne se mélangeaient pas du tout. Ils ne se parlaient pas. Ils restaient totalement séparés. Et c'est pour cela que la parabole du bon samaritain est aussi surprenante. Parce que c'est le samaritain, c'est l'ennemi qui s'arrête pour aider ce juif par terre. Et ajoutons à cela le fait que, à cette époque-là, les hommes et les femmes ne se parlaient pas en public. D'accord ? Ça ne se faisait pas. Les hommes, ils parlaient entre eux, les femmes, elles parlaient entre elles. Et puis, il y a ce petit détail que la femme vient puiser l'eau à midi. Alors, apparemment, normalement, c'était le soir, quand il faisait plus frais, que les gens venaient au puits pour puiser l'eau. Et il semble que cette femme est venue à un autre moment parce qu'elle voulait éviter les femmes de la ville, probablement parce que sa situation maritale, c'était un peu le désordre. Elle a eu cinq maris et maintenant elle était avec un homme qui n'était pas son mari. Elle avait honte. Et donc si on met tout cela ensemble, on se dit, mais c'est la dernière personne du monde à qui Jésus veut parler. Elle est samaritaine, c'est une femme. Et sa vie, c'est le bazar total. Et pourtant, au lieu de garder sa distance, Jésus, il veut lui parler. Il lui demande de boire. Verset 7. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Et la femme, elle ne croit pas ses oreilles. Verset 9, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. » Elle dit, « Mais comment ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et regardez la réponse de Jésus au verset 10. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus dit, en fait, c'est moi qui ai quelque chose à te donner, toi. Le don de Dieu, c'est eau vive. Et la femme lui prend au pied de la lettre, verset 11, mais comment ? Tu n'as même pas de seau pour puiser. Et le puits, c'est très profond. Et tu vas trouver où cette eau vive. Et Jésus lui dit que ce qu'il propose, c'est infiniment mieux que l'eau du puits. Quand on a soif et quand on boit de l'eau, c'est bien. Mais au bout d'un moment, on a de nouveau soif et on a besoin d'encore d'eau. Mais regardez comment Jésus décrit ce qu'il a à lui donner. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il parle de quelque chose qui ne s'épuise jamais, qui ne s'arrête jamais, qui ne nous laisse jamais dans le manque. Quelque chose qui devient une source en nous pour que nous puissions être totalement satisfaits. Jésus parle d'une vie, une vie qui satisfait vraiment. Et il dit que c'est lui qui peut donner cette vie. Je me souviens d'avoir lu que dans la société de la consommation, en fait, un des problèmes, c'est que ça rend les gens tristes. Pourquoi ça rend les gens tristes ? Parce que pour nous inciter à acheter plus, d'accord ? Ceux qui font la pub essayent le plus possible de nous rendre insatisfaits, de créer en nous ce sentiment de manque, je n'ai pas ce qu'il me faut pour être heureux. La pub, c'est ça, en fait. C'est créer en les gens un manque, que ce manque soit réel ou imaginé. Le message, c'est tu n'as pas tout ce qu'il te faut pour une bonne vie. Il te manque X, Y ou Z, mais tu peux l'acheter. Donc c'est bon. Et donc, on passe notre vie avec ce sentiment d'insatisfaction. Mais Jésus, en fait, ce que Jésus dit ici, c'est qu'il y a un sens, en fait, dans lequel on doit sentir l'insatisfaction. Parce que tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie, c'est un peu comme l'eau du puits. On la boit, et c'est bonne, mais après un moment, on a de nouveau soif. Est-ce que vous avez déjà eu cela? Vous avez attendu quelque chose avec anticipation, pensé, ah, ça va être absolument génial, oh, j'ai hâte des vacances, ou une soirée au restaurant avec des amis, ou un nouveau smartphone, et quand vous l'avez, c'est super. Mais après un moment, vous avez encore soif. Cette chose n'allait jamais vous satisfaire au long terme. Elle n'allait jamais vous satisfaire à jamais. Donc, quelle est cette chose, cette eau que Jésus propose qui peut nous satisfaire à jamais? Ce n'est pas quelque chose de ce monde. C'est le don de Dieu, dit Jésus. En fait, c'est Jésus lui-même. Lui seul peut nous satisfaire totalement. Je vais juste vous lire deux versets, deux choses que Jésus dit un peu plus tard dans cet évangile. Jean 6, verset 35, Jésus dit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi. Et Jean 7, verset 37 et 38, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Seul Jésus peut nous satisfaire parce que lui seul peut nous donner la vie pour laquelle nous avons été créés, la vie vécue en relation avec Dieu, notre Créateur. Et pourquoi cette vie est-elle si satisfaisante? Parce que nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons connaître celui qui a créé ce monde et qui nous a créés et qui nous aime et qui prend soin de nous. Nous pouvons le connaître. Nous pouvons comprendre le sens de notre vie, de notre existence, que nous avons été créés par Dieu pour vivre pour lui. Nous avons un but. Nous pouvons avoir la paix, parce que nous savons que quoi qu'il nous arrive, Dieu est souverain, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Et nous avons Dieu lui-même qui vient habiter en nous, lui-même par son esprit. Et nous avons l'espérance, car nous savons que la mort n'est pas la fin. Qu'un jour nous vivrons avec Dieu dans un monde totalement renouvelé. Nous verrons Dieu face à face. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance. Et c'est pour cela que cette vie que Jésus nous propose est si bonne. C'est mieux que tout ce que ce monde peut nous proposer. Donc je veux vous demander, est-ce que vous vous êtes contenté de ce monde-ci en disant, oui, bon, ça y est, c'est tout dont j'ai besoin. Je suis satisfait. Ça me va. Ou bien est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce monde-ci ne pourra jamais étancher votre soif? Est-ce que vous avez dans votre cœur le désir pour quelque chose de plus satisfaisant que les plaisirs éphémères de ce monde? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes venu à Jésus? Est-ce que vous lui avez demandé cette eau vive, cette vie avec lui? Est-ce que cela est devenu une réalité pour vous? De sorte que vous puissiez dire, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, peu importe, si j'ai Jésus, c'est ce qu'il me faut. Et je suis satisfait de lui. Donc c'est là la première question et la première réponse. Qu'est-ce que Jésus nous propose? La vie qui satisfait vraiment. Deuxième question, mais alors comment peut-on l'obtenir, cette vie? La réponse, en nous approchant de Dieu par Jésus. Nous approchons de Dieu par Jésus. Reprenons notre histoire au verset 15. La femme, elle est toujours, prend Jésus au premier degré. Ah, chouette, bah donne-moi cette eau vive pour que je n'ai plus besoin de me traîner ici pour puiser l'eau chaque jour. Elle n'a pas encore compris. Mais puis la conversation, ça prend un virage assez rude. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et viens ici. Là, il met le doigt sur quelque chose en elle, le désordre dans sa vie, là où ça fait mal. Elle dit, je ne suis pas mariée. Et Jésus dit, oui, tu as bien dit que tu n'es pas mariée. Oui, tu l'as été 5 fois, maintenant tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, oui. Oui, tu as bien dit. Mais cet inconnu semble connaître tout sur elle. C'est très déconcertant. Et elle décide de changer de sujet. Et que de mieux que ce vieux désaccord entre les Juifs et les Samaritains. Ah, je vois que tu es un prophète. Ah, tiens, qu'est-ce que toi tu en penses sur le vrai lieu où il faut adorer Dieu? Est-ce que c'est ici, comme nous le croyons? Est-ce que c'est à Jérusalem? Qu'est-ce que tu en penses, Jésus? Vaut mieux parler de ça que de ma vie personnelle, quand même. Mais là encore, Jésus la surprend. Verset 21. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Bientôt, ce ne sera plus une question de lieu. Jésus affirme que les Juifs connaissent Dieu d'une manière que les Samaritains ne le connaissent pas. Et que le salut vient des Juifs et non pas des Samaritains. Mais désormais, Jésus dit, verset 22, 23, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit. Et en vérité. Oui, c'est une bonne question que tu as posée là. Comment adorer Dieu? Mais ce n'est pas une question de lieu. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, adorer Dieu par l'esprit et en vérité? Il me semble que c'est l'adoration de quelqu'un qui est né de nouveau, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est conduit par cet Esprit. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu où on va, c'est le cœur de l'adorateur. Et adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu selon la vérité que Dieu a révélée. Adorer Dieu de la manière que lui, il a demandé, et non pas simplement la manière que nous avons bricolée pour nous-mêmes. Et depuis la venue de Jésus, Dieu nous dit que notre adoration doit être centrée sur son Fils, sur Jésus. C'est en Jésus que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, c'est en Jésus que nous pouvons adorer le Père. La femme ne semble pas totalement convaincue. Verset 25, oui, mais je sais qu'un jour le Messie va venir. Et de toute façon, c'est lui qui va trancher. Oui, on peut discuter, on peut, mais laissons-la pour plus tard. Le Messie viendra. C'est lui qui va décider. On verra bien. Jésus répond, tu n'as pas à attendre, c'est moi. C'est moi qui te parle. Il suffit de passer un peu de temps dans une autre famille pour se rendre compte que les gens font des choses différemment. Parfois très différemment de chez nous. Par exemple, dans la famille de mon frère, quand ils partent en vacances, ils repassent tous les vêtements avant de les mettre dans les valises. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est pour ça qu'ils passent des heures à repasser les vêtements qu'ils vont prendre en vacances. Je me souviens quand on a eu des enfants, les premiers enfants, les gens nous ont donné des conseils, mais radicalement différents, sur comment les élever. Il faut le laisser pleurer. Il faut surtout pas les laisser pleurer. Il faut les faire manger. Voilà, routine. Oh non, mais il faut écouter les enfants. Il faut les écouter. Les enfants savent ce qu'ils veulent. À quel moment? Oui, il faut avoir les règles strictes de la maison. Oh, les règles, tu sais, ça casse les enfants. C'est terrible, ça les traumatise. Et quand on se rend compte que les gens font des choses différemment, deux, trois, des choses différemment de comment toi tu as appris, alors soit on pense, bah, de toute façon, moi j'ai raison et tout le monde a tort. C'est ma réaction spontanée, naturelle, moi je suis fort pour dire ça. Ou si vous êtes diplomate, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, de toute façon, il n'y a pas d'une seule façon de le faire. Voilà. Chacun doit trouver ce qui marche pour lui. Voilà. Et c'est très bon. Et c'est bien comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on applique ce raisonnement-là à notre adoration? Et pas adoration, je ne veux pas dire simplement ce qu'on fait ici, là, le dimanche matin, mais la manière dont on s'approche de Dieu, notre vie de foi. Est-ce que vous êtes jamais dit, la foi c'est une chose tellement personnelle, voilà, ça ne peut pas être imposé. Est-ce que vous êtes déjà dit, chacun doit être totalement libre de chercher Dieu dans de la manière qui lui convient, lui. Et ça peut aller jusqu'à dire, si quelqu'un est juif ou musulman ou bouddhiste, on ne pourra jamais les critiquer ou suggérer qu'ils ont peut-être tort dans certains de leurs croyances. C'est à leur foi personnelle et si ça marche pour lui, pour elle, tant mieux. Et ça semble tellement bienveillant, tellement tolérant de dire que chacun peut adorer Dieu comme il le souhaite, comme il a envie. Mais remarquez que Jésus dit quelque chose de très différent. Il montre un grand, grand respect pour cette femme en tant que personne. Mais il n'hésite pas à dire, vous, Samaritains, vous avez tort sur certaines choses. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et il lui dit, et il faut adorer Dieu par l'Esprit et selon sa vérité révélée. Qui est centré sur moi, dit Jésus. Il ne faut pas simplement suivre ses traditions. La vie qui satisfait vraiment est donnée à tous ceux qui adoreront Dieu comme il le veut, et non pas simplement selon leurs envies. Donc Jésus propose la vie qui satisfait pleinement, la vie, la vraie vie. Et nous pouvons l'obtenir en s'approchant de Dieu par Jésus. pour l'adorer en esprit et en vérité. Mais la troisième question, qui peut l'obtenir? Qui peut l'obtenir? Et la réponse, quiconque croit Jésus sur parole. Quiconque croit Jésus sur parole. Reprenons l'histoire, verset 27, les disciples reviennent, ils sont très surpris de voir Jésus en train de parler avec cette femme, mais personne n'ose lui dire pourquoi ou ce qu'il veut. La femme qui, jusque-là, avait évité, il semble, les gens de la ville, là, part volontairement les chercher, verset 28, pour leur parler de Jésus, parce qu'elle croit que peut-être c'est lui. Le Messie. Et les gens de la ville commencent à sortir pour rencontrer Jésus. Et entre-temps, Jésus parle à ses disciples, verset 32. Une fois de plus, il prend un élément de la vie ordinaire. Cette fois-ci, c'est la nourriture. Et il l'utilise comme un point d'entrée pour parler d'une réalité spirituelle. Et les disciples, tout comme la Samaritaine, lui prend au pied de la lettre. Mais quelqu'un lui a donné à manger. Mais Jésus dit non, ma nourriture, verset 34, c'est faire la volonté de Dieu, c'est accomplir son travail. Et quel est ce travail? Jésus utilise l'image de la moisson. La moisson, on avait apparemment quelque chose qu'on disait, voilà, encore 4 mois et c'est la moisson. Je pense que ça peut être un peu comme la manana, manana, voilà, c'est pas pour tout de suite, voilà. Et Jésus dit, mais en fait, oui, s'il y a la moisson, et c'est maintenant. C'est prête. C'est prête. Il y a une moisson spirituelle à récolter. Et les disciples doivent commencer à ramasser cette récolte. Mais la moisson, ce n'est pas des plantes, c'est des gens. C'est des personnes. Et nous voyons une partie de la moisson là, en fait, verset 39. Dans les Samaritains qui croient en Jésus à partir du témoignage de la femme. Et ils viennent à Jésus et ils veulent que Jésus reste parmi eux encore, voilà, plus de temps, ce qui n'était pas prévu. Jésus, il allait sur son chemin pour atteindre la Galilée. Les Samaritains disent, mais reste avec nous. Ce que fait Jésus, ils veulent entendre Jésus pour eux-mêmes. Et nous lisons verset 41, « Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. » Et disait à la femme, « Nous croyons en lui, en Jésus, non seulement à cause de tout ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. » Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ils ont cru Jésus à cause de sa parole. La foi est grandissante. Ils font partie de cette moisson que Jésus veut que ses disciples ramassent, récoltent. Souvenez-vous que ce sont des Samaritains, là. Ouais. Ce ne sont pas des Juifs, c'est des ennemis des Juifs. C'est des gens qui n'adoraient pas Dieu de la bonne manière et on aurait cru qu'ils avaient aucune chance d'entrer dans le royaume de Dieu à moins de faire un gros effort. On aurait cru qu'ils étaient exclus d'office. Mais Jésus les accueille. Ils croient Jésus sur parole. Et ça suffit. Et il y a un contraste volontaire, il me semble, dans les versets suivants, avec les Galiléens. À première vue, les Galiléens sont très positifs envers Jésus. Qu'est-ce qu'on voit ? Verset 45. « Or, quand Jésus arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil. » On dit, mais c'est très bien. Mais si on regarde de plus près, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 44. « Il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur de Jésus. » Pourquoi les Galiléens font assez bon accueil à Jésus? Verset 45. Car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait fait. Ils aiment Jésus à cause des miracles seulement. Mais ils n'ont pas encore la foi comme les Samaritains. Et c'est exactement ce que Jésus dit à ce fonctionnaire qui vient lui demander de guérir son fils, verset 48. « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. » Est-ce que vous avez besoin d'un miracle pour croire? Et l'officier insiste que Jésus vient en personne pour guérir son fils. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il reste volontairement là où il est. Et il dit, c'est bon. Ton fils, il va bien. Alors, mettez-vous à la place de cet homme. C'est un vrai test, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez croire Jésus et partir rien que sur ces paroles-là? Sachant que c'est la vie de ton fils qui est en jeu. Ce n'est pas une mince affaire. Et en fait, il le fait. Verset 50, la fin du verset. Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Fin du verset 50. Et puis quand il rencontre ses serviteurs qui viennent dans l'autre sens, il trouve que son fils va déjà mieux, il leur demande, mais c'était à partir de quelle heure? Il constate que c'était l'heure même où Jésus dit, ça va ton fils, il va mieux. Et que dit le texte? Fin du verset 53, « Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. » Comme les Samaritains, il a une foi grandissante. Il avait déjà cru la parole de Jésus. Maintenant, il croit parce qu'il a vu, il a eu la confirmation. Il est très frustrant de vouloir quelque chose pour trouver que vous êtes exclu d'office. Ouais. Moi, je connais une jeune fille, elle est étrangère, elle veut devenir sapeur-pompier, ici en France. D'accord? Mais les jeunes sapeurs-pompiers de Paris n'accepteront pour la formation que les gens qui ont la nationalité française. Elle est exclue d'office. C'est dur. Peut-être que cela vous est déjà arrivé à un moment dans votre vie. Vous trouvez que vous êtes exclu d'office pour quelque chose, qu'on ne va même pas vous considérer, parce que vous ne répondez pas aux critères. Non, désolé. C'est frustrant. Et peut-être qu'on imagine que Dieu, il est comme ça, qu'il y a des gens qui sont exclus d'office de son royaume, parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Non, ces gens-là, non, déjà c'est non. Mais ce que Jésus fait ici nous montre que cela n'est pas vrai du tout. Il parle à la femme la plus inattendue, la personne la plus inattendue, cette femme, cette Samaritaine, qui n'était pas aimée par les gens de sa ville à cause de ses choix de vie, et il lui propose la vie éternelle. Et il fait pareil pour les Samaritains qui viennent à lui. Jésus n'exclut personne d'office. N'importe qui peut entrer dans le royaume de Dieu si il croit Jésus sur parole. C'est le seul critère qui compte. Et j'aimerais tirer deux conclusions pour nous ici aujourd'hui. D'abord pour les gens peut-être qui croient à cause de ce que je suis, de qui je suis, à cause de ce que j'ai fait dans ma vie, le bazar, le désordre dans ma vie, Dieu ne s'intéresse pas à moi. J'ai du mal à croire qu'il y a une place pour moi dans son royaume. Ce n'est même pas la peine que j'essaie de chercher Dieu. De toute façon, la porte sera fermée. Et j'espère que si c'est votre cas, que vous voyez ici, que ce n'est pas vrai, du tout. La porte vous est ouverte. Il y a une place dans le royaume, pour quiconque croit Jésus sur parole, pour quiconque reconnaît en Jésus le Messie, le Sauveur du monde. Et peut-être pour d'autres, ce n'est pas le regard que nous portons sur nous-mêmes, mais le regard que nous portons sur certains d'autres. Si vous êtes chrétien, est-ce que vous avez déjà fait mentalement le tour de vos amis en disant, oui, eux, peut-être eux seraient intéressés un jour à venir à l'église, seraient intéressés à Dieu, mais eux, jamais. Mais non, ça se voit. Oui. Ces amis-là, devenez chrétiens, peut-être on les a exclus d'office. En imaginant que cette offre de Jésus de la vie éternelle, c'est pas pour eux. Là, vous rigolez, non? Mais Dieu ne les a pas exclus d'office. Et comment vous savez, comment nous savons qu'ils ne font pas partie de cette récolte dont parle Jésus, comme les Samaritains de la ville? Comment savons-nous s'ils font partie de ceux que Dieu cherche pour son royaume? Car le royaume est ouvert à quiconque croit Jésus sur parole, y compris les plus inattendus, les gens les plus inattendus que nous connaissons, tout comme cette femme samaritaine. À qui pourrions-nous parler de Jésus cette semaine? À qui pourrions-nous parler de Jésus cette semaine? Qu'est-ce que Jésus propose? La vie qui satisfait vraiment, comment l'obtenir en nous approchant de Dieu par Jésus? Qui peut l'obtenir? Quiconque croit Jésus sur parole. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci. Merci car nous voyons en ton Fils Jésus le reflet de qui tu es. Père, tu nous surprends, comme Jésus a surpris cette femme, comme il a surpris ses disciples. Tu nous surprends parce que tu ne fermes pas la porte. Tu n'exclus personne d'office. Tu cherches des adorateurs. Tu cherches les gens qui reconnaissent en Jésus le Messie, le Sauveur. Père, nous te prions de nous aider à saisir quelle est cette vie que Jésus nous propose ici. Cette vie qui peut nous satisfaire totalement, comme rien d'autre. Père, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité, en nous donnant ton esprit et en nous conduisant par ta parole qui est la vérité, pour que nous puissions t'adorer, non pas comme nous en avons envie, mais comme toi tu le veux. Et Père, donne-nous d'être aussi ouverts que Jésus, que d'aller vers les gens que nous imaginons pas capables ou pas possibles, ou bien de nous rendre compte que nous ne sommes pas trop loin pour entrer dans ton royaume. Merci de faire cela en nous, par cette parole. Amen.